Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le Conseil ministériel de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe a été réuni aujourd'hui à Milan, dans le nord de l'Italie. Le principal sujet sur la table de l'OSCE, c'est la Russie et les tensions actuelles avec l'Ukraine depuis l'incident armé en mer d'Azov, au cours duquel 3 navires militaires ukrainiens ont été arraisonnés et leurs équipages capturés. Après le soutien aux pro-russes de l'est de l'Ukraine, après l'annexion de la Crimée, la Russie continue donc à pousser ses pions dans ce pays qui a déclaré la loi martiale et qui a des frontières communes avec 3 pays de l'Union européenne. Les pays de l'est de l'Union s'en inquiètent. Jusqu'où va aller la Russie en Europe? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Jean Radvani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et géopoliticien, professeur à l'INALCO et co-auteur avec Marlène Laruelle de « La Russie entre peur et défi », c'est aux éditions Armand Collin. Et Florent Parmentier, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à l'école d'affaires publiques de Sciences Po, directeur et cofondateur du site web géopolitique eurasiaprospective.net. Un peu de géographie d'abord, et donc de géostratégie, puisque la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, comme le disait Yves Lacoste. La mer d'Azov, c'est une petite mer intérieure qui baigne 2 des principaux ports ukrainiens et qui est reliée à la mer Noire par le détroit de Kerch, détroit contrôlé par la Russie, qui y a construit un pont entre son territoire continental et la Crimée annexée. Est-ce que cet incident est le fruit du hasard ou est-ce qu'il répond à une stratégie d'affaiblissement ou de harcèlement de l'Ukraine par la Russie, Jean Radvani ?
C'est pas le hasard du tout, ça c'est sûr. On a une situation nouvelle, puisque ce détroit, donc, qui est un passage international, est désormais entièrement contrôlé par la Russie, c'est-à-dire les 2 rives sont contrôlées par la Russie, qui a construit un pont. Et du coup, le passage qui, en principe, du fait des accords de Montreux, est libre, est soumis, du point de vue des Russes, à un certain nombre de contrôles, et ils ont amplifié ces contrôles dans la période récente, en arrêtant des navires, en contrôlant les passagers, les marchandises, etc. Donc, voilà, une action. Les Russes considèrent que, du fait qu'ils ont le contrôle des 2 rives du détroit, ils ont le droit de contrôler les navires qui y passent. Et les Ukrainiens, évidemment, ont une vue différente. D'une part, les Ukrainiens, et pas seulement eux, puisque nous, l'Union européenne ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée, et de ce fait, ne reconnaît pas la propriété russe de la rive occidentale du détroit de Kerch. Ce détroit, il est assez étroit, puisqu'il est fait 8-9 kilomètres là où il est le plus étroit, ce qui fait que ça a permis de faire un pont. Et en plus, il y a eu de nombreux incidents depuis 20 ans. Entre l'Ukraine et la Russie, il y a eu un épisode quand Vladimir Poutine avait lancé des hommes pour construire une sorte de digue, pour modifier le courant. Enfin, c'est un problème complexe.
Florent Parmentier, il y a une volonté renouvelée de harceler l'Ukraine de la part de la Russie ?
Alors on peut voir plusieurs clés de lecture à la crise à laquelle nous venons d'assister. Il y a évidemment une volonté de la Russie, on l'a dit, en contrôlant les 2 rives du détroit de Kerch, de priver de débouchés en quelque sorte le port de Mariupol, qui est une ville ukrainienne qui fait 500 000 d'habitants. C'est grosso modo une ville comme Nantes. Et effectivement, le problème n'était pas seulement militaire, il était depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, également un problème économique. Donc on voit que quand on habite aujourd'hui à Mariupol, l'accès à la mer donc est compliqué, maintenant plus compliqué que par le passé, mais du fait de la proximité de la ligne de front, il y a 3-4 ans, on se demandait en fait quand allait tomber Mariupol. Finalement, Mariupol n'est jamais tombé.
Elle est aux portes du Donbass. Hein.
Mais il faut bien effectivement rappeler ce point-là. Et de fait, en fait, un habitant de Mariupol doit faire aujourd'hui 4 heures pour trouver l'aéroport le plus proche, tout simplement parce que l'aéroport de Mariupol n'est plus utilisable.
Mmh. Le président ukrainien, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose en genre
Oui, je crois qu'il faut tenir compte quand même qu'on est dans une situation bien particulière en Ukraine. Il va y avoir des élections en mars 2019, et le pouvoir est un peu aux abois, parce que les sondages sont très mauvais, et donc, on parle en général d'agression russe, mais on ne peut pas exclure une certaine dose de provocation ukrainienne. Et je crois que c'est pour ça que les Américains sont complètement fidèles à leur soutien à Kiev. Les Européens sont embarrassés parce que le dossier n'est pas très clair.
Oui, le président ukrainien Petro Poroshenko, il accuse la Russie de vouloir annexer entièrement l'Ukraine, comme elle l'a fait avec la Crimée, Pour vous, ce sont des propos électoralistes ou est-ce qu'il y a un risque réel? Est-ce que l'Ukraine est, pardonnez-moi l'expression, sur la liste de courses de la Russie?
Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est des propos électoralistes. C'est pas la première fois qu'on voit un président un peu en difficulté relancer un certain nombre de diatribes ou de polémiques ou parfois provoquer des incidents. Donc voilà, c'est pour ça que ce dossier est assez complexe. Je ne pense pas du tout que Vladimir Poutine ait l'intention d'annexer l'Ukraine. Alors évidemment, l'idée au sein des élites russes. L'idée que l'Ukraine fait partie de la Russie depuis toujours et qu'un jour ou l'autre, les Ukrainiens reviendront dans le bon sens et se rapprocheront de la Russie n'est pas exclue. Mais de là à une annexion, je n'y crois pas un instant.
Florent Parmentier, pour vous aussi, c'est une menace un petit peu en l'air, enfin des propos un peu en l'air de Petro Poroshenko?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un contexte électoral et que Petro Poroshenko a un slogan électoral très simple, qui est une langue, une religion, une armée. Ce qui en soi dit quelque chose de la tonalité et sur un discours très nationaliste. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est peut-être deux choses intéressantes.
Ça fait penser à des choses historiques, effectivement.
Parfois, voilà, sans aller lui prêter de mauvais sentiments, mais disons, voilà, on peut néanmoins, pour le moins, s'en étonner. Ce qui est vrai, c'est que la frontière aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine est gardée côté ukrainien par une armée qui est beaucoup plus professionnelle en 2018 qu'elle ne l'était en 2014. L'armée ukrainienne est aujourd'hui capable de tenir et le coût d'une incursion de la Russie sur le territoire ukrainien serait de fait beaucoup plus important aujourd'hui finalement qu'il y a quelques temps. Et d'ailleurs, on peut le voir, enfin il y a une forme de professionnalisation des troupes qui est tout à fait notable. La seconde chose peut-être que l'on peut observer, c'est que la Russie effectivement sait qu'elle n'a pas grand-chose à jouer en 2019 en réalité. Elle peut-être construire une alternative pour 2024. Trouver les hommes, trouver les relais qui lui permettront, si le chaos règne à Kiev, de pouvoir dire mais vous savez, la question, c'est pas qui est à l'origine du conflit en Ukraine.
La question, c'est comment
vous allez faire pour le régler. Et vous aurez besoin de nous. Et c'est, je pense que c'est là-dessus que le discours politique russe, en fait, et en tout cas les débats politiques à Moscou tournent.
Je crois que c'est une question essentielle et que les Européens devraient aussi réfléchir. Parce que on ne peut pas éviter la géographie. Et la géographie, et l'histoire aussi, un peu, quand même, nous dit que l'Ukraine est un voisin immédiat de la Russie et que, depuis des siècles, la croissance économique russe est toujours allée de pair avec deux orientations. Elle a toujours eu des relations économiques importantes avec l'Europe. Et elle a toujours eu des relations économiques fondamentales, encore plus fortes, avec son grand voisin russe. Et d'une certaine manière, nous autres Européens, on a cru pouvoir dire aux Ukrainiens « Vous inquiétez pas des Russes, si vous vous rapprochez de l'Union Européenne, soit un jour adhésion, encore que personne n'y croit trop, soit association, eh bien ça, vous allez voir, ça va aller mieux. » Et en fait, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher, à mon sens. C'est-à-dire que sans de bonnes relations et avec l'Europe et avec la Russie, la situation économique de l'Ukraine va continuer de se dégrader, ce qu'elle n'a pas cessé de faire depuis deux décennies.
Est-ce que les Occidentaux croient au danger russe? Est-ce qu'ils ont cette attitude un petit peu réservée, hein, qu'a eu Angela Merkel aux demandes de Petro Poroshenko, parce qu'ils n'y croient pas au danger russe, parce qu'ils n'ont pas les moyens de répondre, parce qu'ils craignent la Russie, Florent Parmentier?
Alors je pense que nous sommes un peu comme une matrioshka, une poupée russe. J'ai l'impression qu'il faudrait serrer en fait la difficulté. Les États-Unis n'ont pas la même politique que les Européens. Ça, c'est tout à fait vrai. Il faudrait voir ensuite au sein de l'Europe qui est sur quelle position. Les États-Unis peuvent aller dans un soutien qui peut être celui de livrer des armes non létales en Ukraine, ce qu'elle a fait. Et le président Trump, dont beaucoup craignaient en décembre 2016, avant qu'il ne prenne le pouvoir à Kiev, qu'il allait vendre littéralement le pays à la Russie, eh bien on voit qu'il a envoyé un haut représentant qui a des positions assez vigoureuses, et que de toute façon, les États-Unis et le Congrès américain sont toujours extrêmement présents sur ces questions russes et portent une attention particulière au cas de l'Ukraine. Donc les États-Unis et l'Europe ne sont pas exactement sur la même position. Les Européens eux-mêmes ne sont pas unis. Et peut-être il suffit de regarder un peu ce qui se passe du côté du groupe de Visegrad. Vous savez, ce groupe qui réunit la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie.
Les pays de l'Est de l'Europe, de l'Union.
Ce qui est intéressant dans ce point-là, c'est de voir la politique polonaise classique à laquelle on peut s'attendre, mais la Hongrie, par exemple, n'est pas du tout sur la même ligne de conduite. La Hongrie est le pays qui, au sein de l'Union européenne, fait pression pour faire abandonner à l'Ukraine pour bloquer tout progrès de l'Ukraine vers les institutions euro-atlantiques. Et donc là, on a une capacité de la Hongrie à tirer son épingle du jeu, à utiliser les minorités en Transcarpathie, minorités hongroises, on peut penser à la ville de Ujgorod, donc à l'ouest du pays, pour la situer. Voilà, on a des Européens là-dessus qui sont unis sur une politique à minima qui est la politique des sanctions. À chaque fois, finalement, on se demande si la politique des sanctions ne va pas va être renouvelée ou non. Il s'avère qu'elle a été renouvelée depuis maintenant plusieurs années. Donc, on a une forme de cohérence sur une position qui est celle-ci, mais une cohérence malgré tout encore fragile.
Les questions qui se posent sur l'OTAN et sur la participation américaine, hein, qui sont soulevées par Donald Trump lui-même, ainsi que la défense européenne, qui n'est encore qu'une idée ou un embryon, est-ce que ça explique aussi les hésitations européennes, Jean-Adrien?
Oui, enfin, je crois, pour revenir un peu quand même à la question précédente, je crois que la menace, ça se construit des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez en Russie des faucons, et vous avez un lobby militaire important qui agit dans l'idéologie, à la télévision. Il y a eu des campagnes incroyables au moment de la crise ukrainienne sur le fait que la Russie est assiégée. Les États-Unis veulent nous réduire notre importance, etc. Et côté européen, on a un certain nombre de pays qui aussi construisent la menace russe, qui construisent une idée de que la Russie est menaçante, qu'elle va agresser les États baltes, elle va agresser la Pologne et elle va agresser, au-delà du Donbass, l'Ukraine, voire l'annexer, comme dit le président Porochenko. Je crois qu'il faut, là aussi, il faut revenir quand même un peu aux faits et à la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Qui menace qui?
C'est l'Europe qui s'est étendue sur sa sphère d'influence.
Regardez ce qui s'est passé. D'une part, l'OTAN s'est élargie d'abord en 99 à la Hongrie, et puis la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie. 2004, les trois États baltes. Ensuite, des bases antimissiles, le bouclier antimissile américain, négocié avec la Tchéquie en 2007. Avec la Pologne en 2008, avec la Roumanie en 2010, avec le Japon, nord du Japon, donc près des côtes russes, en 2006. En Norvège, la plus grande opération militaire de l'OTAN, c'est en 2006, avant la guerre en Géorgie et avant l'annexion de la Crimée. Et on annonce l'année dernière, 2017-2018, création d'une sorte de base militaire américaine en Norvège, création d'une nouvelle base aérienne en Géorgie. Donc, que peuvent penser les Russes?
Ils se sentent cernés, c'est ce que vous dites entre eux.
Absolument, ils se sentent cernés et on peut se demander. Alors, d'un côté, il y a Trump qui dit « nous défendons nos intérêts, l'America first », et nous, aux Européens, on dit « les Russes n'ont pas de sphère d'intérêt ». En gros, on fait comme si les Russes n'avaient aucun intérêt à défendre. Cette position, je pense, de l'Union Européenne et de l'OTAN est indéfendable. Et donc, alors, soit on maintient ça, et on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des clashs. Et c'est clair que le détroit de Kerch pour Vladimir Poutine, c'est essentiel. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit la Crimée, c'est quand même l'annexion de la Crimée. Il faut rappeler qu'en Crimée, il y a une base militaire absolument essentielle, stratégique. Vous regardez la carte et vous comprenez que la base de Sébastopol, elle avance en mer Noire pratiquement jusqu'à plus du tiers de la mer Noire. C'est un point de contrôle essentiel. Tant que nous n'aurons pas dit clairement que l'OTAN ne doit pas intégrer l'Ukraine, eh bien, les Russes seront méfiants et prendront toutes les dispositions pour défendre leurs intérêts. Et une partie de leurs intérêts, quoi qu'on en dise, me paraît assez légitime. Ou alors, la France n'a plus d'intérêt en Afrique, et les États-Unis n'ont plus aucun intérêt, ni au Mexique, ni au Canada.
L'objectif à long terme de Vladimir Poutine est-il de récupérer la sphère d'influence de l'époque soviétique, reprendre ce qui a été perdu, comme vous le disiez, voire pris par les Européens, selon la vision russe? Et vous êtes d'accord avec ça, Florent Parmentier?
Ce qui est certain, c'est que la Russie, aujourd'hui, est économiquement un État qui a le poids de l'Espagne. Donc on ne parle pas d'une superpuissance économique, on parle d'une grande puissance militaire. On parle d'un État qui a une vision, malgré tout. Cette vision, c'est de s'assumer comme un fournisseur de sécurité. C'est de rappeler que à un certain nombre d'États potentiellement partenaires, que la Russie a les moyens d'agir et quand elle soutient des régimes, elle les soutient jusqu'au bout.
Par exemple, la Syrie.
C'est l'exemple syrien.
Bien sûr.
Ce qui est frappant, c'est de voir que d'un côté, il va y avoir une diversification géopolitique au sein des États qui sont situés dans l'ancien espace post-soviétique. C'est vrai aujourd'hui en Asie centrale, mais c'est vrai finalement en Moldavie. Moldavie aujourd'hui est un État qui fait donc à l'ouest de l'Ukraine, qui fait davantage de commerce avec l'Union européenne de loin par rapport à la Russie. On voit que la Chine est un grand investisseur aujourd'hui dans cette région-là également. Donc il y aura une diversification finalement dans l'ancien espace post-soviétique, mais la Russie est aussi capable de jouer un certain nombre de points stratégiques. On peut penser par exemple à la percée que la Russie a effectuée récemment en Afrique, avec une idée essentielle qui est de dire il y a là un énorme chantier, une sorte de mondialisation à la sauce chinoise qui est la nouvelle route de la soie. Et dans la nouvelle route de la soie, nous devons être les fournisseurs de sécurité. En étant fournisseurs de sécurité, on se replace sur la carte internationale, au-delà même finalement des États du voisinage.
Vous avez commencé à l'évoquer, Jean Radvani, à propos de la mer Noire. Est-ce que la Russie poursuit son vieux rêve de devenir une puissance maritime mondiale ?
Oui, je crois que ça fait partie des projets de Vladimir Poutine. Il a relancé plusieurs chantiers navals importants. Il a une politique systématique de développement des grands ports russes, qui est une façon aussi pour lui de rentrer. Comme il n'a pas la puissance économique qu'avait l'URSS à l'époque, et de ce point de vue-là, il est effectivement affaibli. Il développe les atouts qu'il a. Et par exemple, les ports russes en mer Baltique, les nouveaux ports russes en mer Noire, de façon à asphyxier, ça c'est clair que c'est un projet russe, le transit par l'Ukraine, pour le gaz en particulier, mais pour aussi d'autres matériaux, des métaux, etc. Et par les États baltes, il y avait du pétrole, du gaz, du charbon qui passait par les États baltes. Donc d'une certaine façon, on est en train de briser des flux séculaires. Parce que par exemple, du côté de la Baltique, c'était la Hanse. La Hanse, c'était le commerce à travers les ports baltes vers l'Interland russe. Et ça, c'est en train d'être cassé. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour personne. Peut-être que les Russes vont pouvoir développer effectivement leurs ports, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne et ce n'est pas dans l'intérêt des États baltes.
Les États baltes, justement, ils ont peur de cette résurgence de la puissance russe, Florent Parmentier ?
Oui, et on peut les comprendre. La taille et la géographie, effectivement, peut aider à comprendre ce sentiment.
Parce qu'eux, ils sont en contact direct. Il n'y a pas l'Ukraine qui fait tampon avec la Russie.
Non, ils ont pour l'Europe, deux d'entre eux ont une frontière commune avec la Russie.
Oui, oui.
Ils ont une frontière effectivement directe pour deux.
Ce que je voulais dire, c'est que c'était l'Union européenne, c'est un par les États baltes un contact direct avec la Russie.
De leur attachement finalement au lien américain, de leur attachement à l'OTAN, d'où aussi effectivement une sensibilité particulière par rapport au cas de l'Ukraine. Ils regardent tout simplement dans le temps, ils se disent 2008 c'est la Géorgie, 2014 c'est l'Ukraine. Finalement, pour nous, c'est à quel moment en fait on aura cette difficulté particulière.
Ils se sentent menacés. Le sont-ils, pour vous, Jean Radvani, les États baltes?
Ils se sentent menacés et c'est compréhensible. Je pense que c'est en même temps une menace qui est survalorisée et qui... Je ne pense pas du tout que Vladimir Poutine ait l'intention d'envahir les États baltes. Mais par contre, défendre les intérêts russes en Baltique et défendre les intérêts aussi d'une certaine population russe dans plusieurs des États baltes, ça, bien sûr. Donc on est dans cette situation et je crois que l'Union européenne devrait prendre une position, à mon avis, plus raisonnable, c'est-à-dire pousser au dialogue et à une certaine concertation, même si c'est difficile avec Vladimir Poutine.
Merci Jean Radvani, merci à vous Florent Parmentier, merci d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Thank you.